Alors bonjour, c'est Fabienne d'Alsace qui habite à Toulouse. Alors voilà, ça fait depuis quelque temps déjà qu'en début de mois, on a l'analyse de l'actualité, également le développement du journaux, du monde diplomatique. Sauf que ce mois-ci, rien. Alors j'ai attendu, mais toujours rien. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait des journalistes? Pourquoi ils sont pas là? Voilà.
Bonjour, c'est Jean-Christophe à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai un ami qui s'appelle Raphaël Mensa, qui vit à Paris. Et aujourd'hui, on vient de m'apprendre que dans la nuit de samedi à dimanche, il a été voir une amie commune en Belgique, à Bruges, et il a été agressé par une bande de skinheads qui l'ont laissé mort par terre, ou pour mort par terre. Et actuellement, il est dans le coma et les médecins ne disent pas quel va être son avenir. Les agresseurs ont été retrouvés parce qu'ils avaient du sang, son sang, sur les chaussures. Et comme personne n'en a parlé à la radio, à la télé, il y a eu d'autres agressions racistes dans la semaine, mais personne n'a parlé de ça. Je voulais le dire à tout le monde et je m'étonne de tout ce silence sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc mon copain est français d'origine togolaise et je sais que c'est le meilleur bougre du monde et je suis très très triste qu'il lui soit arrivé une chose pareille. Voilà.
Bonjour, c'est Yves, professeur en lycée à Dijon. J'ai déjà laissé un message il y a 3 semaines, donc le 19 avril, à propos d'un jeune homme, Iban Dai, qui était menacé d'expulsion depuis 2 mois par le préfet de région. Or le 20, comme prévu, donc ce jeune homme a été expulsé, mais depuis, Réseau d'éducation sans frontières donc a continué à se mobiliser. Et bonne nouvelle, cela arrive, d'où le message d'aujourd'hui. Iba est revenu à Dijon avec un visa touristique donc qui lui permet d'achever sereinement la fin de son année scolaire au lycée. Alors en ce jour de commémoration de l'abolition de Rick Dumoin de l'esclavage, il est agréable de constater que les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle ont permis à un jeune Sénégalais de faire prévaloir en 2006 le respect des droits de l'homme sur un certain arbitraire administratif. Encore merci à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Bravo.
Voilà, merci pour ce message qui prouve que de temps en temps, quand même, on peut dire qu'on ne perd pas toujours. Surpris par le deuxième message concernant cet homme battu à mort, j'ai pas de nouvelles autres que celles que cet auditeur a laissées sur le répondeur de là-bas si j'y suis. J'espère qu'on en aura d'autres et qu'il y aura des suites, des échos à cette affaire terrible. Et puis le premier message sur le monde diplomatique, eh ben voilà, vous savez qu'on revient avec, vous savez où je vous l'apprends, qu'on revient de reportage avec Guy Van Til, là on vient d'arriver, on revient de Dubaï, et on vous prépare une série de reportages, d'émissions sur ce thème, sur cette ville-monde de Dubaï. Et il y a un lien avec l'émission d'aujourd'hui, on va revenir au Bénin aujourd'hui, l'occasion de ce que cet auditeur vient d'évoquer, c'est-à-dire l'esclavage, les Lumières, et on va aller sur la côte des esclaves, à Ouida exactement, au Bénin. Bien sûr, l'esclavage est aboli aujourd'hui, mais pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Et Dubaï en fournit un exemple tout à fait terrifiant, tant l'exploitation de l'autre est quelque chose de tout à fait normal et banal. Il faut jamais oublier que les plus ardents défenseurs, parmi les plus ardents défenseurs de l'abolition de l'esclavage, beaucoup d'entre eux étaient partisans de la colonisation, c'est-à-dire qu'on ne faisait plus venir des hommes pour les exploiter sans aucune indemnité, mais qu'on allait dans leur pays leur apporter nos lumières, précisément. Et oui, c'était nos lumières, c'est-à-dire, notre religion, nos hôpitaux, à la fin du 19e siècle, notre éducation, etc. Et pour rassurer ceux qui commençaient avec les industriels de l'époque et qui s'inquiétaient de la disparition de la main d'œuvre servile, d'esclaves, on leur a dit, mais attendez, on va faire des contrats et vous aurez des travailleurs qui viendront. Et c'est ainsi qu'on est allé chercher sur les côtes de l'Inde, notamment la côte Malabar, mais bien d'autres, de ces hommes qui sont venus travailler avec des contrats. Je pense aux Antilles françaises, je pense aux côtes africaines, à Durban, etc. Et aujourd'hui, on verra comment à Dubaï, alors on est dans une autre partie du monde, nombreux sont les ressortissants du sous-continent indien à venir se faire exploiter cruellement dans cette ville et dans cette dynamique extraordinaire que constitue cette ville de Dubaï en construction. Voilà, donc aujourd'hui Bénin, l'oubli, l'arbre de l'oubli, vous allez voir comment on faisait tourner les négriers, qui n'étaient pas forcément tous blancs, ne l'oublions jamais, faisaient tourner les esclaves, ce qu'allaient être les esclaves, autour d'un arbre qu'on appelait l'arbre de l'oubli, afin qu'ils oublient jusqu'à leur identité même. Vous savez, quand on dit, je ne sais plus comment je m'appelle, et ben c'était le rôle de cette circulation autour de cet arbre qu'on va retrouver aujourd'hui, après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, hein, j'ai terminé votre émission en chantant à tue-tête, parce que moi, dans ces années de plomb, j'avais 20 ans, et ça m'a ouvert le cœur, et c'est des années de plomb. Je comprends ce qu'il dit, souffrir, mais moi, je faisais partie du mouvement. Quand je pense à ces années-là et vous me les avez fait revivre, j'ai quand même le cœur qui s'ouvre, parce que on y a cru, on y croyait vraiment. On y croyait vraiment qu'on aurait changé le monde, que le monde aurait été plus juste. Il y aurait eu cette égalité. Et dans les moments qu'on est en train de vivre maintenant, c'est même plus imaginable, cet espoir. Nous, on a été portés par un espoir étonnant. C'était du bonheur, vraiment. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les jeunes, à mes filles, de pouvoir éprouver ce désir de changer le monde et l'espoir. Surtout, ce qui semble vraiment les années de plomb, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est les années qu'on est en train de vivre maintenant, où l'espoir, j'en vois pas beaucoup. Voilà, merci.
À propos des brigades rouges, ce qui est terrible dans ces marxistes-léninistes, c'est que Ils croient, c'est sûr, combattre la bourgeoisie alors qu'ils ne sont que des concurrents. Ils essaient de faire la justice comme la bourgeoisie le fait. Ils ne voient pas que s'il y a une révolution un jour, ce ne sera pas un message de faire la justice et tout, mais ce sera même pas un message, mais ce sera la vie tout simplement. Et de justifier l'assassinat d'Aldo Moro, qui est une petite crapule bien sûr, par rapport, en la comparant aux assassinats que fait la bourgeoisie, c'est vrai, c'est se comparer à elle, vous comprenez, c'est exactement comme quand on disait aux staliniens sur Jaruzelski et sa dictature, et lui disait, et Pinochet, j'ai très bonne comparaison, vous vous comparez à eux parce que vous êtes comme eux, simplement, quand on se bat sur le même trottoir, disons des prolos qui démissionnent de leur vie, c'est sûr qu'on devient dur, comme n'importe quel macro avec un autre macro. Bon, j'ai pas très bien préparé mon intervention, mais je pense que les marxistes-léninistes ont toujours imité la révolution bourgeoise. D'ailleurs, ils en sont toujours référés dans leur phraséologie. Quand ils se liquidaient entre eux, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils disaient. Salut.
Bonjour, je voudrais relayer un message de notre ami Youssef Hadji, qui dirige la maison des associations d'Aruna à Naplouse, dans les territoires palestiniens. Youssef lance un appel au secours à tous les citoyens de France pour qu'ils viennent en aide à la population palestinienne, qui est désormais privée, y compris des aides gouvernementales dont elle bénéficiait jusqu'à présent. Youssef nous dit que quelques camions de vivres et de médicaments réussissent encore à pénétrer dans les territoires, grâce notamment à l'aide d'Israéliens, Arabes et Juifs qui refusent le boycott imposé par le gouvernement israélien. mais pour les employés du secteur public, en particulier les instituteurs et les infirmiers, il n'y a plus de salaire du tout depuis 2 mois et ils commencent à être dans l'impossibilité de se rendre au travail, à cause des coûts du transport notamment. Alors Youssef nous dit aussi que les familles palestiniennes accordent une importance primordiale à l'éducation et qu'elles sont très préoccupées par le fait que leurs enfants puissent être privés de cours et que les examens prévus en fin d'année risquent d'être annulés. Ils demandent donc qu'un financement citoyen aide les Palestiniens de Naplouse et des environs à passer ce cap difficile et ils se proposent de redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin dans les villages autour de Naplouse les sommes collectées. C'est pourquoi l'association Capjipo Euro-Palestine, ici en France, lance l'opération Assistance à Peuple en Danger et commence par donner l'exemple puisque les 20 membres de son conseil d'administration envoient dès maintenant 20% de leur salaire du mois de mai à Darna Naplouse, à Youssef Hadji. Merci.
Le repère modeste et varié des Saint-Pantaléon de l'Arche se réunira mardi 16 mai au bar Le Crocodile Gourmand, rue de la Mairie, à 20h30. Ciao.
Et Yves de Chaland, eh bien voilà, nous organisons notre 4e soirée repère des amis de la Bastille, j'y suis, à Chaland, en Vendée, au café La Pichouli, place des Marronniers, le jeudi 18 mai, à partir de 20h30.
Salut Daniel, ben écoute, je voulais te lire un petit passage de François Bon, qui écrivait que, donc dans son livre Daou, la mode était au bord des routes pour influer sur les comportements routiers, à ces silhouettes de contreplaqués peintes en noir dressées dans l'herbe, partout où il y avait eu des morts. Toi, tu imaginais que devant chaque usine, ayant licencié son personnel, on établirait un champ de pareilles silhouettes de contreplaqués. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait mettre une de ces silhouettes devant la Sougerma de Mérignac, puisque les employés de cette usine, qui fait partie, comme tu le sais, du groupe EADS, qui engrange des millions d'euros de bénéfices chaque année, donc ces employés ont en effet appris la fermeture du site par la presse vendredi soir. Et je suis moi-même touchée, directement ou indirectement, parce que mon père est entré dans cette boîte à l'âge de 17 ans, et même s'il est aujourd'hui à la retraite, c'est une partie de son histoire qui est dans cette usine. Et puis aussi parce que mon compagnon, ingénieur, se retrouvera bientôt au chômage. Et puis parce que je pense enfin à tous ces employés, ces ouvriers, ces cadres, qui vont aussi voir leur usine fermée. Et donc, je voulais simplement leur rendre hommage et puis leur témoigner mon soutien. Merci.
Bonjour. Pour sa 3e édition, le Festival Art à la Folie vous accueille à l'espace Rénan de Kems du 15 au 20 mai. Venez nombreux découvrir une expo, des spectacles, des débats sur le thème des frontières et soutenir ainsi le travail d'artistes handicapés. Renseignements et réservations au 03 89 62 89 10. Merci.
Je suis Thérèse Marie Cardon, donc du nord de la France. Alors, il y a deux possibilités pour exprimer votre soutien aux faucheurs volontaires. D'abord, l'appel donc sur altercampagne en minuscule .fruit.fr ou alors envoyer un fax à la cour d'appel au 02 38 74 57 82 au 02 38 74 57 82. Alors, le fax proposé par les faucheurs, je vais vous le lire. Monsieur le Président de la Cour d'appel d'Orléans, j'exprime par ce fax ma solidarité avec les personnes inculpées dans le procès des 15 et 16 mai 2006 et je soutiens l'action de désobéissance civique des faucheurs volontaires d'OGM en plein champ. Les questions de fond posées par la culture des organismes génétiquement modifiés en plein champ sont multiples. La non-maîtrise des risques de dissémination des OGM dans le milieu naturel, la question éthique de la brevetabilité du vivant, l'appropriation de ce vivant par quelques multinationales, la compétition effrénée que ces entreprises se livrent à cette fin au mépris d'une agriculture de qualité et de ceux qui, au quotidien, dans les exploitations agricoles à taille humaine, se battent pour nous assurer une nourriture de qualité. Ces questions doivent relever d'un débat démocratique qui n'existe pas encore dans notre pays, mais que nous espérons proche grâce à l'action de désobéissance civique des faucheurs volontaires. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Voilà.
C'est une invitation pour un meeting avec Gérard Filoche dans la Nièvre à Infi, à côté de Nevers, le mercredi 17 mai à 19h. Infi, c'est une petite cité industrielle à côté de Nevers. Il y a le plus gros employeur de la Nièvre, les aciéries d'Infi, du groupe Arcelor, où des centaines d'ouvriers travaillent et où ils sont confrontés à de graves problèmes de licenciement. Voilà, et donc on organise un meeting avec Charles Filoche. Merci de venir nombreux, au revoir.
Je vous téléphonais pour vous informer d'un mouvement qui est en train de se mettre en place à Lyon et dans d'autres villes. Donc un mouvement qui protège des familles de sans-papiers qui sont expulsables d'un moment à l'autre et dont les enfants sont scolarisés avec les nôtres. Donc on a appelé à une désobéissance civile, on protège les enfants en les accueillant chez nous, en donnant de l'argent et un peu de matériel aux parents. Donc là, le 17 mai à 17h, place Satonnet, dans le premier arrondissement de Lyon, il y a une manifestation de toutes les mouvements, enfin de toutes les organisations de soutien, donc du premier et du quatrième arrondissement de Lyon, et qui va se rendre à la préfecture. Voilà, donc écoutez, je pense que vous êtes bien placés pour peut-être prendre un relais national de cette information, et puis pourquoi pas venir nous voir. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me joindre. Merci beaucoup, au revoir.
On dit que le roi Salomon, un jour qu'il était là des prestiges du monde, s'en alla méditer sans femme ni guerrier dans le vaste désert. Or, comme il cheminait à longs pas dans le sable, le front penché, esprit paisible, au bout de sa sandale, il vit une fourmi. Elle marchait comme lui, elle aussi tête basse, indifférente à tout, têtue comme au labour. Salomon, la voyant si brave et obstinée, se pencha sur elle. Il lui dit, « Où vas-tu donc, petite sœur ?» Elle répondit, « Grand roi, ne me retarde pas, je cours où mon âme m'appelle, à la poursuite des gazelles. » Ami, lui demanda le roi, connais-tu ces bêtes divines ? Hélas non, répondit la bestiole pressée, mais j'ai vu leurs ombres passer, et j'en fus tant bouleversé que je ne peux vivre sans elles. Le roi des rois s'agenouilla, la prit sur le bout de son doigt, sourit, lui dit enfin, comment peux-tu rêver en rejoindre quelqu'une ? Elles vont droit comme l'œil à travers le désert, elles franchissent d'un saut la dune que tu escalades en 100 jours. À suivre leurs sabots, tu tomberas bientôt dans une empreinte creuse, et la brise qui tout efface peut-être t'enfouira dedans. Quitte tes illusions, pauvre amie valeureuse, et retourne à la fourmilière que tu n'aurais pas dû quitter. « Je sais, au roi des rois, que la raison t'inspire, » répondit la fourmi. « Mon pas est court, ma vie n'est qu'un jour de la tienne, mon ciel n'est pas plus haut qu'un brin d'herbe naissant. Je ne suis rien, j'aspire à la grâce parfaite, j'avoue que c'est grande folie. Mais qu'importe à mon cœur aimant, l'espoir me tient, me tire et pousse, ne me laisse point en repos. Il occupe toute ma vie. Je vais lui obéir sans faute, et la mort ne me sera rien si elle me prend sur mon chemin à la poursuite des gazelles. »
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, au Bénin.
Flight number 2, arriving from.
Vous pouvez avaler un serpent vivant devant moi, je dirais tout ce que je suis en train de dire. C'était ça, la réalité. C'est ça.
Excepté qu'il ne sait ni mugir, ni hennir, et qu'à sa mort, on ne tire parti ni de sa chair, ni de sa peau, il n'y a aucune différence entre un nègre, un bœuf ou un cheval. Simon Nicolas Linguet, Théorie des lois civiles, 1767. La négricie est une grande région d'Afrique divisée en plusieurs royaumes dont les peuples sont si nombreux qu'il leur serait difficile de subsister si, par le trafic d'esclaves, ils n'étaient pas déchargés tous les ans d'une partie de ceux qui l'habitent. Gérard Mélier, maire de Nantes, 1725. L'esclavage, c'est à ce prix que vous mangez du sucre. Les blancs sont supérieurs aux nègres, comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Cette dernière phrase est de Voltaire. Combien ? Combien ? 10 millions ? 15 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui, durant 3 siècles, furent déportés à travers l'Atlantique vers l'Amérique et la Caraïbe. La plupart sont partis d'ici, de cette côte des esclaves, du Bénin, où nous sommes hier, Dahomey. Beaucoup sont partis de Ouida, qui en portugais veut dire aide, de l'aide. Ouida, grand comptoir négrier, aujourd'hui à l'abandon, vide, engourdi, où quelque chose rôde jusqu'à l'océan, à travers la lagune, depuis l'océan jusqu'à nous, un tourment, une hantise qui tourne en cercle de poussière rouge, une ombre, on dirait, une âme, on dirait. Les déportés n'en finissent pas de tourner autour de l'arbre de l'oubli et de l'arbre du retour. Là-bas, si j'y suis, au Bénin, ex-Dahomey, à Ouida.
Même passer une trahie à la misère pour les jeunes garçons, pas vrai travail, mais les petits ont fait tout ou critérie ou pas jamais moins, maïs moulin ou pas moins, pas boquine, tous graines bananes, sous pas vrai si comme à toi. Aïe, 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 maman chérie, moi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Oh, oh, oh. C'est tout, qu'elle est bagaille, qu'elle est bagaille, qu'elle est bagaille, ma femme m'a expliqué.
Alors ça, c'est l'arbre de l'oubli.
Oui, c'est... Il y avait un arbre à cet emplacement, et c'est autour de cet arbre que les esclaves doivent tourner pour oublier les événements de leur pays. Les hommes vont tourner 9 fois, les femmes 7 fois. Chez nous, le chiffre 9 est réservé aux hommes et le chiffre 7 est réservé aux femmes. On dit que les hommes ont 9 côtes, les femmes ont 7 et que chacun aura tourné autour de cet arbre compte tenu du nombre de ses côtes afin d'oublier les événements de leur pays.
Alors là, en fait, tout ce chemin, depuis l'arbre aux enchères, il y avait la maison là-bas des esclaves, dans le fort, ensuite l'arbre aux enchères.
Oui. Hein, c'est là, c'est chien, on vient ici.
Ensuite, tout ce chemin-là, et qui est maintenant, tout le long du chemin, on a érigé des statues. Oui. Qui représentent quoi, ces statues?
C'est les emblèmes de chacun des rois d'Abomey.
Ah, oui. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner. Ah, les esclaves mâles, c'est un peu malheureux comme expression, ça fait un peu animal, ça. Devaient tourner autour de lui 9 fois, les femmes 7 fois. Cet tour étant accompli, les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ah, ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines et leur identité culturelle pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller.
C'est une drôle d'opération, ça. Ouais. Hein, c'est quand même une drôle de chose.
C'est à la terre remplacé par un séjour.
Ah, il y a un petit arbre. Oui. Il y a un petit arbre de l'oubli qui a été replanté à côté de cette statue.
Mais qui est à l'origine de cette idée de tourner de ce cérémonial de l'arbre?
C'était la négrier eux-mêmes. Ah, c'était les négriers eux-mêmes
qui avaient initié cette méthode.
La méthode de l'oubli et de l'amnésie.
Oui, oui.
Évidemment, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce qu'après tout, les gens sont arrivés là-bas, ils ont continué d'adorer le Dieu qu'ils adoraient ici.
C'est ça, ils ont emmené leur vaudou avec eux.
Oui, oui.
Ils ont emmené leur fétiche
beaucoup
avec eux.
Beaucoup de systèmes. La manière de port de vie, d'enfants, la manière de porter des bagages.
Sur la tête.
La manière de s'habiller, tout a été importé là-bas. Ça veut dire que les esclaves n'ont pas oublié les événements. C'est la manière dont ils ont traité qui ont fait que les esclaves sont fatigués et ils ont compris qu'ils n'ont pas à se défendre. Ils sont obligés de continuer la route.
Ouais. Oui.
Continent africain, d'Angola, de Rhodésie ou de l'Afrique du Sud, opprimé du monde entier, ne perdez jamais d'espoir. Tant que la terre tourne, la route tournera toujours. Mais un jour, nous serons assez forts pour contre le vent qui souffle. Le soleil ira enfin
pour nous, nous aurons la liberté. Je ne cesse d'appeler les bons dieux à mon secours. Mais jamais pris d'embrasser et répond par le silence. Silence du bon Dieu aux prières. De ces nègres, comme on disait, nombreux, qui sont passés par ici, qui sont passés par par Ouida, et qui ont emprunté ensuite ce chemin jusqu'à la mer, jusqu'aux pirogues, jusqu'aux bateaux négriers, où ils sont partis. On sait que 20-30% d'entre eux allaient mourir en mer pendant la traversée. Mais aujourd'hui, la chanson qu'on entendait, celle d'Africando, ce groupe du Bénin, s'adresse, chante en créole de la Martinique et s'adresse aux frères de Guyane, des Antilles, etc. C'est-à-dire que l'oubli n'a pas marché. On a fait tourner les négriers avec la complicité des rois locaux, des rois autochtones, notamment des rois d'Abomey, tâchaient de dépouiller de leur humanité, c'est-à-dire de leur spiritualité, c'est-à-dire de leur famille, c'est-à-dire de leur lien avec les leurs et avec leur terre et avec leur Dieu, ces hommes, ces femmes et ces enfants, pour les mettre dans ces bateaux. Eh bien, ça n'a pas marché. Les hommes ont gardé cette mémoire essentiellement à travers leur religion. Les dieux ont accompagné les hommes dans les Amériques et les âmes des hommes sont revenues sur le Dahomey, le Danhomey, la maison du serpent, la terre du serpent. Les nègres se détruisent, disait en 1701 le bon abbé là-bas. Ils se pendent, se coupe la gorge sans façon, pour des sujets fort médiocres, le plus souvent, c'est pour faire de la peine à leur maître. Ce sombre cauchemar, ce long et sombre cauchemar que fut l'esclavage, qu'on le veuille ou non, n'a pas fini de hanter nos mémoires. Esclavage atlantique, celui que nous connaissons le mieux, le moins mal, fameuse traite négrière, le commerce triangulaire, qu'il faut mettre en rapport avec le fait que l'esclavage est une très vieille coutume, qu'aujourd'hui ça continue. Quelqu'un comme Dominique Torres nous affirme aujourd'hui qu'il y a 200 millions d'esclaves à travers le monde, et on sait qu'au moment de cette traite négrière qui a suivi la découverte en 1492 de l'Amérique, il y avait de l'autre côté de l'Afrique de l'Est une traite également au profit, disons, des pays arabes, de la péninsule arabique, du Yémen, par exemple, où nous étions il y a quelque temps. Alors, qu'est-ce que ça fait aux gens qui vivent ici, qui vivent toujours là, dans leur esprit, dans leur mémoire, dans leur sensibilité, lorsque nous, les Blancs, les Yovo, nous arrivons, par exemple, dans l'école de Ouida, dans la classe de Madame Pauline Kassa Sosa, qui a accepté que nous posions aux enfants qui sont là, qui doivent avoir 12 ans, peut-être 11 ou 12 ans, ce que leur dit le mot esclavage.
Les rois du Dahomey avaient des esclaves.
Oui. Les Blancs viennent de l'Amérique. Ils amènent des pacotilles, des miroirs, des fusils pour échanger les esclaves contre ces pacotilles. Les rois du Dahomey prennent ces pacotilles et donne ses esclaves aux Blancs et qui amène en Amérique. Il les fait marcher sur une voie qui présentement on dit le port de nos retours. Ils prennent des gens costauds qui peuvent bien travailler dans les plantations de canne à sucre. Le jour que les Européens doivent venir pour acheter ces esclaves, il les fait sortir sous l'arbre. Ces esclaves sont composés des hommes et des femmes. Ils font le tour.
Il y avait des enfants aussi, hein?
Oui. Chaque acheteur prenne quelque chose pour marquer ses esclaves. Pour que les esclaves ne perdent pas. Avec de fer. Ils marchent sur la route. On fait tout ce que je sais pour l'esclavage.
Ils marchent vers où? Quand ces esclaves-là quittent Somalie, hein? Et les invalides, là, on les enterre dans la fosse commune. Ils marchent pour aller où? Et on les parque dans quoi?
Dans les bateaux.
Et ils sont à l'aise là-bas, hein, dans le bateau. Ah, non, je peux préciser. Viens ici, toi, viens ici. Viens, pourquoi tu as peur?
On les attache avec la corde dans les bateaux. Ce que nous avons fait, c'est pas juste. Parce que aujourd'hui, pour l'Afrique, si l'esclavage va encore continuer, l'Afrique sera vide. Et à cause des Américains et des Français, des Européens qui viennent chercher nos aïeux en Afrique.
Évidemment, les adeptes de la francophonie doivent être tout émus en entendant ces petits enfants de Ouida chanter cette chanson où il est question de Napoléon. Il faut rappeler que l'esclavage a été aboli par la Convention en février 1794, le 4 février 1794 exactement, puis rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802. L'esclavage fut véritablement aboli, pour ce qui concerne la France, en 1848, grâce entre autres au combat de Victor Schœlcher. Alors, visite donc à Ouida, ancien port négrier sur la côte des esclaves, sur la côte de Guinée. Et là, on va au musée, il y a un petit musée à Ouida qui est installé dans un fort, dans le fort portugais. Les Européens qui venaient là, c'était les Portugais qui sont venus les premiers sur ces côtes, qui sont installés dès 1472. Par là, la première intention n'était pas le commerce négrier, mais la première cargaison d'esclaves africains partis d'Afrique date de 1503, parce qu'entre la conquête et cette date-là, eh bien, on avait déjà eu le temps, très très peu de temps, en une dizaine d'années, d'exterminer une grande partie des populations autochtones, notamment pour ce qui nous concerne, nous autres Français, à Saint-Domingue. En 1517, Charles Quint autorisera l'importation de 15 000 esclaves noirs. Alors, visite dans ce petit musée de Ouida avec notre guide Gabriel.
Et voilà les chaînes des esclaves.
Ah, c'est ces entraves là.
Oui, oui.
Là-bas avec on attachait ça au quoi, aux jambes, aux...
Ça, on mettait ces esclaves au cou et aux pieds. Les esclaves sont enchaînés par ces chaînes ou bien avec le bois d'ébène.
C'est une sorte de carcan qu'on autour du cou comme ça.
Oui.
On enchaîne, on attache les hommes, les enfants, les femmes de cette façon.
Nous les mettons au dos. Et cette bouteille contenait des liqueurs données en échange des esclaves. Et pour une bouteille ayant la forme carrée, le roi n'ayant jamais vu quelque chose comme ça, il est très content. Et il demande au maître, celui qui a amené cette bouteille, de lui dire le nombre d'esclaves qu'il doit donner pour qu'il soit content de ce magnifique cadeau qu'il venait de lui apporter.
Mais pour une bouteille carrée, combien d'esclaves?
On peut donner plus de... Ça dépend du temps. On peut donner plus d'esclaves qu'un canon. Alors pour un canon, quand le canon est bien grand, c'est 15 esclaves. Donc on peut arriver à donner 20 esclaves pour une bouteille ayant la forme carrée.
20 hommes contre une bouteille à la forme carrée. Oui. Voilà le marché.
Oui.
Alors ça, c'est une coupe de navire de négrier.
Voilà.
Et on voit comment... Les esclaves étaient disposés.
Ici, nous avons 227 hommes et 120 femmes qui sont disposés dans ces bateaux pour partir. Près de la moitié mourait et le reste couvrait quand même les dépenses.
La moitié, selon vous, la moitié mourait en route.
Oui, oui.
Et le reste qui était vendu à l'arrivée dans les colonies des Amériques, des Caraïbes et de l'Amérique latine
couvrait déjà les dépenses. Ici, nous avons la position des esclaves pendant la nuit.
Ici, c'est un dessin.
Oui, on oblige les femmes à se coucher sur le dos et les hommes sur le ventre. Et c'est le moment pour les maîtres de contempler la cuisse de ces femmes.
Oh. Ça, c'est pathétique, ce dessin, et c'est très beau, hein. Pirogue, au milieu des flots et des vagues, et des hommes se jettent à la mer. C'était fréquent, ça, selon vous?
Oui, c'est fréquent. C'était fréquent. C'est très fréquent.
Amener dans des chaloupes jusqu'au navire négrier, ceux des esclaves qui ne s'étaient pas déjà suicidés à terre, étaient embarqués, grelottant de peur. Beaucoup de nègres croient qu'on va les manger, certains n'hésitent pas à se suicider, et cela par des moyens parfois atroces, comme avaler leur langue ou manger de la terre.
Ici, nous avons le dernier roi, il s'appelle Rufon.
Ah, d'accord. Là, le roi.
Voilà, le roi.
Qui est là, sur
qui a été intronisé le 15 avril 1725.
D'accord. À la gauche du roi, il y a
les femmes,
tu vois, il y a une trentaine de femmes.
Oui.
Là, il y a quelqu'un
qui est en train de l'éventer
avec un voile.
Oui,
dessus.
Oui.
Devant, il y a deux, on croirait des enfants.
C'est des pygmées. Oui, oui.
À droite, là-bas.
Non, toujours à gauche du roi.
À gauche du roi.
Nous avons les guerriers.
Les guerriers.
En bas.
Les tam-tameurs.
Les tam-tameurs.
C'est-à-dire tambour,
oui,
et
oui.
Corps et flûte, etc.
C'est ça. Ici, nous avons la population en bas.
La population qui est dissimulée sous les arbres.
Oui, oui. Ici, nous avons les sages de la ville. Et à la droite du roi, nous avons les invités blancs. Et
À l'extérieur,
nous avons deux hommes qui sont en train de mettre feu au canon pour marquer l'événement.
Là, il y a un panneau qui nous dit « Les souverains d'Afrique noire n'étaient pas les initiateurs de la traite négrière, certes, mais finalement, nombreux s'en étaient enrichis.
Oui. »
C'est-à-dire que la traite négrière, en gros, elle a rapporté essentiellement aux puissances coloniales,
oui.
Mais
les autorités, sinon les rois d'antan en avaient bénéficié. Oui.
Ici,
nous avons Francisco Félix de Souza. C'est un Brésilien. Il a fait beaucoup de commerce d'esclavage. Il a été directeur de ce fort. Il a été un ami intime au roi Gezo. Et comme ce roi a 4000 femmes, Francisco Félix de Souza en a abusé aussi. Il a pris 52 femmes. Et il a reconnu 100 enfants. Voici son premier fils. Celui-ci est l'arrière-grand-père de l'actuel archevêque de Cotonou. Voici son second fils. Et comme il a 100 enfants, nous avons la famille de Souza au Ghana, on en a au Togo, on en a au Dahomey, on en a au Nigeria.
Ce que vous me dites, c'est que actuellement, l'actuel archevêque de Cotonou descend d'une famille d'esclavagistes.
Oui, oui.
Don Francisco Félix de Souza. Alors, qui c'était?
Don Francisco Félix de Souza est né à Bahia le 4 octobre 1754. Il arriva pour la première fois sur la côte d'Afrique, précisément au Dahomey, en 1788, à l'âge de 34 ans.
Il était portugais?
Il était brésilien.
D'origine portugaise?
D'origine portugaise.
Blanc?
Blanc, il était tout à fait blanc. Le roi Dahomey, quand il fait des guerres et arrêtait des prisonniers, on les tuait. Donc Francisco lui a dit que ce n'est pas bon de lui laisser et il va les envoyer aux États-Unis, en Amérique.
Ah, c'est-à-dire que lui, il était un acteur important dans la traite négrière.
Des négrières.
C'est ça, c'est-à-dire votre ancêtre prenait prétexte, disait, c'est quand même mieux d'en faire des esclaves plutôt que les exécuter.
De les exécuter.
Et ça, c'est une des raisons de sa prospérité.
De sa prospérité.
Et donc, de fil en aiguille, de votre prospérité, de la prospérité de la famille.
De la famille de Souza.
Donc on peut dire que la famille de Souza est une famille d'esclavagistes.
Pas pour autant. C'était le commerce qui était en vogue de leur temps.
Ah.
Le commerce qui était en vogue de leur temps.
Oui. Ça vous fait, c'est quand même pas rien d'être descendant d'un grand négrier, d'un grand esclavagiste.
Oui.
C'est pas rien dans votre conscience.
Ah, mais je dois vous dire que Don Francisco n'a pas péché quand il vendait ses esclaves. Au contraire, il les a libérés de la mort.
Ah, c'est l'argument.
C'est l'argument. Argument. Mais je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi. Nos points de vue seront divergents, je suis sûr. Mais c'est ça qui est ancré dans mon crâne. Vous dirai que il n'a pas mal agi de son temps.
Ouais. Oui,
au contraire, ses esclaves, il les a sauvés, car on les tuait.
Ouais.
On les tuait.
Quitte à les tuer, mieux valait les faire mourir plus tard.
Non.
Pas du tout.
Mieux vaut les envoyer dans d'autres continents, c'est tout.
Combien a-t-il exporté, selon vous?
Je connais pas le nombre. Je suis de la quatrième génération. Le voilà. Il a mis au monde mon grand-père.
Que voici
Chico.
Alors, Chico, il était noir. Donc là le métissage commence.
Oui, oui, mais ça commence. Et Chico a mis au monde mon père, qui est le sixième Chacha.
Ah.
Et je suis descendu de lui. Quatrième. Un, deux, trois,
quatre. Chacha, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Chacha?
C'est Guizou qui lui a donné son nom. Parce qu'il marchait rapidement.
Donc vous,
Chacha veut dire rapidité et promptitude.
Rapide, ça vous est resté dans la famille?
Oui.
Est-ce que dans la famille vous êtes toujours rapide et prompt?
Pressé. On est tout le temps pressé. Parce que les affaires sont les affaires. Hein?
Quelles affaires vous faites aujourd'hui?
Je suis instituteur et je suis à la retraite, ça fait 14 ans. J'ai fait 32 ans de pédagogie pratique. À l'heure actuelle, je vais au champ.
Singulière rencontre quand on sait que les gens avec qui nous trouvons sont très importants pour le Bénin. Chaque année, près de 4000 membres de la famille de Souza venaient du Nigeria, du Bénin, du Togo, même d'outre-Atlantique, viennent fêter l'illustrissime ancêtre avec des accordéons comme on en entend dans le nord-est du brésilien, on y mange des cuisines brésiliennes, etc. Alors qu'on est tout simplement, on va pas dire descendant d'esclavagistes, puisque notre ami ne pourrait avaler un serpent qu'il ne le reconnaîtrait pas. Négationnisme, ici et là.
Les ancêtres sont enterrés ici, et l'aïeul même est dans la chambre. Ouvrez. Là,
l'aïeul
de Satan, son lit, la jarre d'eau qu'il a fait venir du Brésil.
Ah.
Et il y a des objets que nous allons exposer dans cette salle et dans d'autres salles. On veut faire d'ici un petit musée privé.
Ah. Alors on entre dans une pièce.
Voilà.
Il y a un lit à baldaquin très haut, voilà. Comme ça.
C'était son lit. Il dormait sur ce lit. Le lit... est venu du Brésil. Évidemment, le matelas est de nos jours.
Oui.
Et voilà sa tombe. Et Francisco Félix de Souza. Nasceu, né. C'est en portugais. Faliceu, décédé le 8 mai 1849.
Un an après l'abolition de l'esclavage.
Après?
Ouais.
Après.
Mais vous êtes très fier de votre ancêtre, alors.
Vraiment fier. On est trop fier de lui.
Ouais.
On avait fait une cérémonie ici, route de l'esclave. Des gens sont venus un peu partout. Mais ils disent qu'ils sont fiers d'être fils d'esclaves ailleurs parce que leurs frères laissés ici sont misérables. Eux autres, ils ne sont pas comme ça.
Que dites-vous des conditions dans lesquelles ces gens sont envoyés, des conditions de voyage? Et que dites-vous aussi de tous ceux qui sont morts?
Bon, je m'excuse, hein. Don Francisco les livrait à la place d'ici. C'était les gens, je m'excuse, de peau blanche qui les traitaient comme ça. Le bateau peut contenir 200. On y mettait 1000. Et il en mourait beaucoup, on les jetait à la mer. Ce sont les blancs qui faisaient ça. Et s'il y a crime, c'est à partager en trois parties. Les occidentaux doivent ramasser deux parties. Ils sont les plus criminels. Je m'excuse, hein. On les traitait comme des animaux. Et sincèrement...
Mais c'est lui qui a proposé ce commerce.
Ben oui, c'était votre ancêtre qui était l'animateur.
C'était son intention, c'était de les sauver. S'il les mettait ici, le roi les tuait, c'était ça. On peut. Vous pouvez avaler un serpent vivant devant moi, je dirais tout ce que je suis en train de dire, c'était ça.
Moi, je donne
la réalité, c'est ça.
Un exemple. Il y a deux chiens de la même propriétaire. Moi, je prends un, vous prenez un. Mais arrivez chez nous. Je sais comment je traite mon chien. Et vous aussi, vous traitez autrement votre chien. Est-ce que vous voyez, c'est la même chose. Mais lui n'a pas livré les esclaves pour dire qui il est.
Mais ce que je note, c'est que vous comparez les... Vous dites, vous prenez la métaphore... Attendez, un instant. Vous prenez la métaphore des chiens. Vous dites, on achète un chien et on va le traiter de telle ou telle façon. Vous êtes bien d'accord que implicitement vous comparez
les esclaves à des chiens.
Non, c'est un exemple que j'ai. C'est-à-dire, nous achetons dans le même marché. Moi, je prends mon marchandise, ma marchandise, je rentre. Vous aussi, vous rentrez. Ça dépend de comment vous avez traité votre marchandise. Hein?
Oui. Donc, vous ne sentez nullement votre ancêtre coupable?
Du tout. Du tout. Je le dis à cœur ouvert, je le dis sincèrement. Il n'a pas péché hein, contre la nature. Je condamne les blancs qui ont malmené ses esclaves.
Mais lui, il était blanc.
Il était blanc, il était blanc. Mais ces blancs qui ont maltraité, Don Francisco ne frappait pas.
Mais qu'est-ce qu'il a fait pour arrêter ça? Pour, il pouvait quand même proposer d'autres conditions de voyage.
Ah non, il ne peut pas les... En ce temps-là, c'était le commerce qui était en vogue. Il ne peut pas laisser ces hommes-là à la terre béninoise ici, le roi. Mais vous avez appris à partir du CE1, le roi, c'était une phrase là, le roi avait pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Il fallait les expatrier. On ne peut pas m'obliger à dire le contraire de ce que je pense.
Mais bien
c'est
sûr.
Pourquoi je dis, vous pouvez tout dire, le loup mourra dans sa peau. Le loup mourra dans sa peau.
Et pourquoi vous dites avaler un serpent? Qu'est-ce que ça veut dire?
Avaler un serpent, c'est une chose horrible. Si vous faites ça, je n'aurai pas peur. C'est ça. Je n'aurai pas peur.
Jovial, pittoresque et exotique, ces entretiens. Mais ne les oubliez pas, lorsque nous partirons pour Dubaï, on verra comment, bien sûr, l'esclavage est aboli. Il n'y a pas d'esclavage à Dubaï, mais une exploitation très forte, très violente et très évidente et qui pose pas beaucoup, aucun problème de conscience à ceux qui sont, ce qu'il faut bien appeler des exploiteurs. Merci à tous. La fracture coloniale, la société française au prisme de l'héritage colonial, sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, pardon. C'est aux éditions La Découverte. Et puis un livre sur Ouida au col de son destin de Dominique Kenhomme, édition L'Armatan. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Renaud Mahé et Rémi Quincez, réalisation Antoine Chavoyen Chouquet, si c'est de Pascal Le Pascariello avec Christophe Imbert, comme toujours au répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission c'est daniel.mermet@radiofrance.com réclame.